religieuses, de religieux et de prêtres religieux, je vais décrire le riche passé de la vie religieuse à Montbrison sous l'Ancien Régime, puis la vie des Clarisses sous la Révolution, ainsi que leur arrivée ici. Vu le temps qui m'est imparti, je ne pourrai faire qu'un survol de tous ces événements. Toutefois, avant d'entrer dans le vif du sujet, je partirai d'un événement récent vécu par notre communauté, à savoir la consécration de la chapelle ainsi que du nouvel autel en octobre 2020. Au cours de la cérémonie, ont été insérés dans le petit logement prévu à cet effet les reliques de Saint François, de Saint Clair, de Sainte Colette, nos fondateurs ou réformateurs. Aujourd'hui, chacun de ces saints a quelque chose à nous dire. Et tout d'abord, Saint François, fondateur de l'ordre des frères mineurs, qui écrit dans sa lettre à tout l'ordre les mots suivants: que tout homme craigne, que le monde entier tremble et que le ciel exulte quand le Christ, Fils du Dieu vivant, est sur l'autel entre les mains du prêtre. Ô admirable grandeur et stupéfiante bonté, ô humilité sublime, ô humble sublimité, le Maître de l'univers, Dieu et Fils de Dieu, s'humilie pour notre salut au point de se cacher sous une petite hostie de pain. Voyez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Humiliez-vous, vous aussi, pour pouvoir être exalté par lui. Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. Cette photo, prise au moment de la louange de conclusion de la prière eucharistique, permet en même temps de voir l'ancien autel en bois. Sainte Claire, fondatrice de l'ordre des Clarisses, avait été installée par Saint François au monastère de Saint-Damien, à l'extérieur des remparts d'Assise. Les sœurs étaient donc plus vulnérables. En 1240, tandis que François était déjà mort depuis 14 ans et que Claire était malade, les Sarrasins assaillirent la ville et le monastère. Au procès de canonisation, voici la déposition que fit sœur Françoise. Claire se fit apporter une cassette contenant le Saint-Sacrement et pria avec ferveur en disant: garde toi-même tes servantes, parce que j'en suis incapable. Alors, une voix d'une douceur merveilleuse répondit: je te défendrai toujours. Claire, enhardie, répliqua à son tour: Seigneur, je t'en prie, défends aussi cette cité. La même voix dit alors: la ville souffrira bien des épreuves, mais elle sera protégée. Alors Claire dit à ses sœurs: n'ayez pas peur, je vous garantis qu'il ne vous sera fait aucun mal, pourvu que vous obéissiez au commandement de Dieu. Alors les Sarrasins s'enfuirent en hâte, ne commettant ni dommages ni dégâts. Telle est la signification du blason figurant devant notre nouvel autel, qui représente un ostensoir entouré des mots suivants: garde. Moi, je vous garderai toujours. Mettons-nous à l'école, à l'écoute du texte relatif à notre fondation. L'an 1500, la construction du monastère, faite avec autant de simplicité que de régularité, fut achevée et en état de loger des religieuses. Ces dernières, au nombre de 11, issues de divers monastères où s'observait l'étroite réforme de Sainte-Colette, y furent alors conduites. On tient par tradition constante que la bienheureuse réformatrice, Sainte-Colette, passant par Montbrison pour aller fonder en d'autres provinces, prophétisa qu'un jour il en serait bâti un, montrant du doigt l'endroit où il a été effectivement construit, et elle ajouta que la pureté de la règle y serait observée jusqu'à la fin. Alors là, c'est un autre passage, parce que c'est un événement qui revient plusieurs fois dans nos archives. Et là, cet extrait dit, qui a été écrit beaucoup plus tard, sans doute vers 1880. Passant par les boulevards de la ville de Montbrison, dans un de ses voyages que nécessitait sa réforme, elle prophétisa qu'il y aurait des religieuses de sa réforme qui persévéreraient jusqu'à la fin du monde. Là, c'est la fin du passage. Donc vous voyez, dans le premier extrait, il est dit que c'est la pureté de la règle qui serait observée jusqu'à la fin, et dans l'autre, que le monastère persévérerait jusqu'à la fin du monde. On ne peut pas trancher. Notons qu'il n'est pas dit que le monastère durera jusqu'à la fin du monde, mais qu'il existera. Et que l'idéal de Sainte-Claire y sera sauvegardé. Seule l'Église a les promesses de la vie éternelle. Donc, synthétisons un petit peu ce que nous ont dit François, Claire et Colette. Aujourd'hui, face à un contexte sanitaire préoccupant, ainsi qu'à un manque de vocation dans la plupart de nos instituts religieux, François, en quelque sorte, présent parmi nous à travers ses reliques, nous invite à avoir une grande dévotion et beaucoup de respect pour l'Eucharistie. Claire nous dit que nous sommes dans la main de Dieu et que nous n'avons rien à craindre. Enfin, Colette nous encourage à rester fidèles à nos règles et à nos constitutions qui s'adossent elles-mêmes à l'Évangile. Passons maintenant rapidement en revue les différentes fondations religieuses de Montbrison, regroupant des religieux, religieuses, prêtres vivant en communauté. Elles sont impressionnantes. Il y avait également des fondations pieuses, des confréries et d'autres associations religieuses qu'il n'y a pas lieu de mentionner ici. Même après l'orage de la Révolution, Victor Laprade, prêtre, homme de lettres et homme politique, né à Montbrison en 1212 et mort en 1883, a écrit dans ses lettres « Je vois de ma fenêtre la sainte ville de Montbrison » et encore « Ma sainte ville de Montbrison au pied des montagnes ». Au Xe siècle, un prieuré bénédictin est fondé à Savigneux, mais il ne reste aucune trace du prieuré de Savigneux. Au XIe siècle, c'est le moment où la ville de Montbrison naît, le château est construit, et à la sortie de Montbrison, à Sainte-Eugénie, est construit un autre prieuré bénédictin. Et en fait, il est construit sur des restes de bâtiments romains. donc c'est là qu'on a été pendant 17 années, comme je le dirais un peu plus loin. Donc ça, c'est des bâtiments, si on reparle des fondations, qui durent depuis presque 2000 ans. Au XIIe siècle, l'hôpital, qui est fondé vers 1180-90, et donc il y a une chapelle à côté de l'hôpital, et liée à cette fondation de l'hôpital, il y a une communauté religieuse, la première établie par les comtes. La ville de Montbrison s'accroît, et au XIIIe siècle, arrivent les franciscains, et donc en même temps que Montbrison se développe, les fondations religieuses aussi se développent. Les franciscains sont arrivés à Lyon en 1219 et ensuite à Montbrison en 1240. Donc le couvent des franciscains date des tout débuts du franciscanisme. Donc là, on voit les bâtiments de l'ancien couvent, et ce couvent des franciscains est maintenant à différentes attributions. Il est d'abord la mairie, c'est aussi l'office du tourisme, en fait c'est la rez-de-chaussée, en fait, de nous, c'est l'office du tourisme, et puis sur la droite, on ne voit pas, c'est la médiathèque de la communauté de communes. C'est à la même époque que est construite la collégiale de Montbrison, et elle est desservie par 13 chanoines, donc là l'espace des chanoines. Ils tiennent une école destinée aux futurs clercs, hein, mais qui assure également l'instruction élémentaire des enfants de la bourgeoisie locale. L'armorial de Guillaume de Revel, qui date de 1450, donne une bonne idée du développement de la ville au moment où Sainte-Colette y est passée, puis au moment où le monastère des Clarisses y a été fondé, une cinquantaine d'années plus tard. La concentration des maisons y est déjà extrême. Donc c'est vrai que là, vous voyez, on voit la ville 50 ans avant notre fondation et on se dit, où est-ce qu'il reste de la place? Bon, alors là, là c'est la collégiale Notre-Dame. Ici, c'est les franciscains. Il y avait une belle, très belle flèche qui a été détruite par la foudre. Et là, on voit le château qui a généré la construction de la ville. Donc là, on lit la ville... Ville et château de Montbrison, les ponts du fort. Voilà. Alors après, on arrive à notre fondation, à la chaire linéaire entre le 15e et le 16e siècle. Au mois de novembre 1494, la bulle du pape Alexandre VI autorisant l'établissement d'un monastère de Clarisse à Montbrison. Voilà, comme vous montre la photo, là c'est un détail, c'est le début de la bulle, et donc là on peut lire, vous voyez, avec A, 2L, Alexandre, Episcopus, voilà, Servus Servorum Domini, Dei. Donc Alexandre, bon, c'est Alexandre VI, Borgia. Et puis à la ligne suivante, la salut et bénédiction apostolique. Alors là ici, il est question de Claude de Saint-Marcel, c'est celui à qui la bulle était adressée. Et puis là, important, là, la quatrième ligne, mon cher fils, Pierre Durfay. Donc c'est notre fondateur, Pierre Durfay. Et voilà la bulle, le sceau de la bulle, Alexandre VI, pape. Pendant 3 ans et demi, Pierre Durfay, grand écuyer de France, ces baillis de forêt achètent des maisons contiguës dont le regroupement forme progressivement un monastère. 11 sœurs venant de 5 monastères différents, Moulins, Le Puy, Aigueperse, Chambéry et Genève sont installés dans leur monastère le 2 juillet 1500. Le monastère est adossé au rempart au lieu de l'actuel jardin appelé Square Honoré d'Urfé, en face de la sous-préfecture. Donc notre monastère a été détruit, on verra, en 1821 et rien n'a jamais été reconstruit sur le lieu de notre monastère. Dès le départ, il a été transformé en jardin. Attenant au couvent des sœurs, un petit couvent appelé Hospice abrite 3 ou 4 frères franciscains qui ont pour fonction d'administrer les sacrements aux sœurs et d'aider à la quête. À l'extérieur des remparts, elles ont un jardin pour la culture des légumes, comme le permet la règle. Les sœurs sont colettines, autrement dit issues de la réforme opérée par Sainte Colette, dont les constitutions insistent sur la clôture, l'obéissance et l'ascèse. Elles insistent également sur la pauvreté et l'égalité des sœurs par la participation de toutes aux travaux manuels, l'absence de domestiques et de sœurs converses, et le refus de recevoir des dots. Donc au XVIe siècle, il y a le Concile de Trente, suivi ensuite de l'application du Concile de Trente, et on va voir au XVIIe siècle, à mon horizon, un nombre de fondations religieuses, de communautés religieuses assez impressionnant. Là, au début du XVIIe siècle, là, alors, on remarque que le château a été détruit. La collégiale Notre-Dame est dans son état actuel. Et là, le petit clocher, c'est les franciscains. On reconnaît la flèche. Et on voit que la ville est toujours entourée de ses remparts. Appelés échevins, après avoir éventuellement demandé l'avis des habitants, décidaient de la création d'une école et en même temps, ils cherchaient la congrégation religieuse qui la prendrait en charge. Donc, vers 1625, arrivaient des oratoriens qui ouvrent une école de 140 garçons en haut de la ville et qui prend la suite de l'école des chanoines. Leur bâtiment est désormais transformé en sous-préfecture. Alors en France, ces oratoriens ils sont rattachés à l'oratoire de Bérulle. Ils ont été fondés au XVIIe siècle. Le premier couvent des Ursulines, à peu près fondé à la même époque. Alors les Ursulines ouvrent un collège de filles, et ce collège, donc ça c'est toujours un collège actuellement, c'est le collège Victor Laprade. En 1641, les plus jeunes sœurs des Clarisses, là on revient à notre monastère, obtiennent que la communauté puisse avoir pour directeur spirituel 6 pères récollets en remplacement des 3 pères cordeliers. Alors ça a créé des querelles pas possibles dans la ville, mais toujours est-il que ses frères et collègues sont quand même bienvenus, réellement venus comme aumôniers des sœurs. Ses frères et collègues étaient une branche réformée des franciscains, et donc étaient sans doute plus à même de comprendre les colettines, elles aussi, branche réformée de la famille de Saint-Clair. En 1643, arrivée des Visitandines, qui ouvre un second collège de filles. Et comme il y avait déjà à Montbrison des cordeliers et des clarisses, elles n'ont pas eu la permission de faire des quêtes. Montbrison devient ainsi un grand centre d'éducation des jeunes filles, de la noblesse et de la haute bourgeoisie du Forez. Le couvent des Visitandines accueille aujourd'hui l'école de musique ainsi que de nombreuses associations. En 1648, les Ursulines, qui sont 40, ouvrent un deuxième couvent en dehors des remparts de la ville. Et une vingtaine d'années plus tard, dans ce nouveau couvent, il y a déjà 32 religieuses. Mais il n'est pas spécifié que ces nouvelles Ursulines aient ouvert encore un collège de filles. Donc, sur cette photo, on voit une porte cochère, donc sans doute l'endroit où les voitures à cheval rentraient autrefois. Et là, tout en haut, on a du mal à voir, mais il y a une croix. Alors, aujourd'hui, ces bâtiments, cet ancien couvent des Ursulines, a été transformé en EHPAD. Et en fait, il y a des chambres doubles. L'EHPAD va être refondé. Et finalement, ces bâtiments vont être démolis. Et donc, la mémoire architecturale de ces Ursulines va être effacée. Et dans la cour de l'EHPAD, il y a une Vierge Marie. Et en fait, si on fait attention, vous voyez, c'est la même Vierge Marie que tout à l'heure au premier couvent des Ursulines. Là, je ne sais pas si la statue va être préservée. Alors en 1649, une communauté de sœurs locales sert à l'Hôtel Dieu et quelques années plus tard, des religieuses hospitalières ou religieuses des sœurs Augustines prennent le relais. Alors à la fin du XVIIe siècle, la fondation des Capucins, vers 1680, donc c'est les lieux que nous habitons actuellement. Alors vous voyez, et cette photo vous montre que les pièces ont été certainement énormément transformées de siècle en siècle. Alors par exemple, au rez-de-chaussée, c'est notre cloître, et là, ce sont nos cellules. Et sinon, vous voyez, regardez là, la trace de fenêtre de cellules. Là, vous voyez, là il y avait une cellule, là il y avait une cellule, on voit bien là le carré. Alors c'est des cellules de capucins, c'est-à-dire que c'était dans les constitutions capucines, il fallait des cellules, des fenêtres assez petites. Et donc bah, on a toujours ces fenêtres assez petites comme cellules, même si, vous voyez, on voit que les étages, les hauteurs d'étages ont changé au cours des siècles. Nous n'avons aucun renseignement sur la construction de ce couvent et sur les noms des premiers frères. Alors, ce qui complique aussi la recherche sur l'origine de la fondation du monastère des Capucins, c'est que les frères ne pouvaient pas être propriétaires de leur couvent et tout était fait sur le nom des fondateurs. Alors, à la fin du 17e et du 18e, c'est la construction de la chapelle de la Visitation et surtout avec un dôme. Et en fait, le dôme, ce n'est pas le dôme d'origine, il a été détruit et reconstruit. Cette chapelle avait été transformée en salle d'assises du palais de justice et depuis quelques années, le palais de justice a fermé. Voilà la carte des implantations de monastère de Clarisse. En France, au début du XVIIIe siècle. Si je l'ai mis, c'est surtout pour vous montrer que un siècle plus tard, à peine un siècle plus tard, avec la Révolution, il ne restait plus un seul monastère, mais c'est le cas des monastères des Clarisses, mais c'est la même chose pour les jésuites et tous les couvents de la France entière. C'est quand même impressionnant. Alors, je remonte les mêmes bases. Donc là, vous avez Notre-Dame, la collégiale. Après, les franciscains. Alors là, voilà, les visitandines, le château en ruine. Et puis, alors là, attendez, là, sans doute, les oratoriens. Et merveilleux, sans doute, les clarisses. Pour indication, vers 1720, on comptabilise à Montbrison à peu près 862 feux et on peut donc estimer la population à 4300 habitants. Au même moment, à Saint-Étienne, il y a 1392 feux et à Roanne, 930 feux. Par décision de la commission des réguliers, le deuxième couvent des Ursulines, qui ne compte plus que 12 religieuses, est fermé en 1552. Aujourd'hui, voilà, je vous l'ai dit, hein, il abrite une EHPAD qui va être détruite. Hein, voilà, c'est ça. Alors ensuite, en 1781, le prieuré de Savigneux est fermé parce qu'il n'y avait plus moines. Alors, on arrive à peu près au moment de la Révolution. J'ai fait un dénombrement approximatif des religieux et des religieuses pour Montbrison. On arrive à un total d'à peu près 190 religieux, religieuses et puis prêtres religieux, sans compter les prêtres séculiers. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et on dénombre à peu près autant, si ce n'est plus, de maisons religieuses fondées au XVIIe, XVIIIe siècle à Montbrison qu'à Saint-Étienne, quand bien même la population de Saint-Étienne était environ 7 fois plus importante que celle de Montbrison. Voici le panorama de la vie religieuse à la veille de la Révolution. Tout, absolument tout, ici comme ailleurs, va être balayé. Maintenant, je vous résume un petit peu la vie de notre communauté sous la Révolution. En août 1790, le personnel de la nouvelle administration de Rhône-Loire rentre au monastère pour l'inventaire. Alors on dit aux sœurs, surtout n'ayez pas peur, c'est juste un contrôle, on va voir ce qu'il y a, c'est juste une petite formalité. Donc les sœurs ne devaient rien cacher, puisque de toute façon, tout leur resterait. Aussi, sans la moindre méfiance, déclarent-elles les ornements, les vases sacrés, les lampes d'argent, les chandeliers de bronze, ben, bref, tout ce qu'elles avaient de plus précieux. L'État s'étant arrogé le soi-disant droit de délier de leurs vœux tous les religieux de France, les commissaires du gouvernement offrirent aux sœurs de quitter leur monastère. La communauté était alors constituée de 31 sœurs, dont Mère Marie-Madeleine Perrache à leur tête. Donc cette Mère Perrache, c'est la sœur du célèbre Perrache qui a fondé, la gare de Lyon porte le nom. Les sœurs refusèrent leur liberté, la liberté qui leur était offerte, et puis elles ont été contraintes à faire une élection civile et elles ont toutes réélu la même abbesse, Sœur Marie-Madeleine. 1791, un an plus tard, les révolutionnaires réclamèrent tout ce qui avait été noté sur l'inventaire l'année précédente. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai mis cette photo. Alors, en fait, c'est une photo des Ursulines de Valenciennes. Et parmi ces Ursulines, il y avait une Clarisse, parce qu'il y avait, dans une famille, il y avait une femme qui était une Ursuline et l'autre était Clarisse, et puis la Clarisse avait rejoint le groupe des Ursulines. Et donc, je trouve, même, bon, ça, vous voyez, c'est après la sentence, c'est leur procès, mais je trouve que cette photo donne un bel aperçu de ce que les sœurs ont vécu dans leur, peut-être leur sein de communauté, au moment où les révolutionnaires leur ont dit, bon, voilà, vous êtes déliés de vos vœux, réalisez une supérieure. Et là, on voit très bien la figure de la supérieure et de l'abbesse qui soutient le courage de toutes ces sœurs. Alors, en 1792, la communauté quitte le monastère et les sœurs vont dans des maisons bourgeoises ou vont chez leurs parents. 1793, après 8 mois seulement, Monsieur Plaille, qui accueillait beaucoup de sœurs dans sa maison, décède et les sœurs doivent trouver un nouveau lieu de refuge. Et elles vont à un endroit qui s'appelle Maison Case. Maison incommode, bruyante, où les sœurs mirent des papiers sur les vitres pour se protéger du regard des curieux. Les sœurs se retrouvèrent finalement à 24 dans cette maison. 1794, on leur annonça qu'elles devaient quitter la ville dans les 10 jours. Les familles amies de Montbrison, qui les avaient reçues en 1792 ayant fui, les sœurs furent accueillies parmi leurs bienfaiteurs de la campagne ou dans leur famille. Elles aidaient le jour, passant des vêtements communs par-dessus leurs habits religieux et elles priaient la nuit. 1795, compte tenu du relatif ralentissement de la persécution, les sœurs peuvent revenir à la maison Case pour un deuxième séjour de 9 ans. Malgré leur pressante démarche, elles ne purent récupérer leur couvent, qui fut vendu. En 1797, leur abbesse décède et n'est pas remplacée. Et nous voici arrivés à l'étape de la renaissance de la communauté, qui a été vécue en 2 étapes. D'abord, leur arrivée à Moins, et puis à Montbrison, ici. En septembre 1804, arrivée de 15 sœurs à Sainte-Eugénie, où elles accomplirent de sommaires travaux. Donc c'est le prieuré que je vous avais montré tout à l'heure, le prieuré de Moins. Alors, même si cette maison est un lieu, enfin, c'est quand même assez humide, c'est quand même un lieu monastique plus grand et plus isolé que là où elles étaient en ville. Alors, donc, la communauté, à ce moment-là, les sœurs qui arrivent, elles étaient 15, et elles ont accueilli des sœurs d'autres monastères qui avaient fermé et qui n'avaient pas pu se reconstituer. Et c'est ainsi qu'arrivent des sœurs d'Ecperse et elles font une nouvelle élection et une des 2 sœurs d'Ecperse est élue. Oui, voilà. Voilà la communauté de Sainte-Eugénie, les bâtiments de Sainte-Eugénie. Donc là, le bâtiment qui est devant, c'est là surtout que se trouvent les fondations romaines. Et puis là, on voit la chapelle de Sainte-Eugénie, qui est beaucoup plus tardif. Et puis là, ici, c'était les bâtiments conventuels. Voilà. Alors là, voilà les objets qu'ont apporté les 2 sœurs des Perses et des objets qui avaient appartenu à Sainte Colette. Un bol, une croix, la clé. Disons que la clé, c'était la clé du monastère des Perses. Donc il n'a pas, spécialement appartenu à Sainte Colette, mais ça a été apporté. Et là, la communauté peut renaître grâce à la reprise du recrutement qui compense les décès. Et Saint-Eugénie, elles restèrent 17 ans. Alors, en 1821, d'abord, en ville, a lieu la démolition de leur ancien monastère afin de dégager la vue, pour mettre en valeur le collège des oratoriens, donc qui a été transformé en sous-préfecture. Et le 27 septembre, transfert de l'ancien couvent des Capucins, transfert